l'intermède philosophique, une chronique présentée par Camille Escamilla.
Aujourd'hui, la peur. Pour commencer, je voudrais dire la chose suivante. Cette émission doit beaucoup à Jean-Louis Chrétien, mon remarquable professeur de philosophie à la Sorbonne dans les années 80, et très précisément à son article « Peur et altérité » dans le recueil « La voix nue ». J'espère que cette émission lui rendra hommage. Définissons la peur. C'est un état affectif, un sentiment, pouvant aller de la simple appréhension à la peur panique ou terreur. Elle est indissociable de la représentation d'une menace ou d'un danger. Et cet état, il nous prend tout entier. C'est pourquoi il va de pair avec des manifestations corporelles incontrôlables telles que tremblements, pâleur extrême, yeux exorbités, froid intense, souffle court, jambes molles ou au contraire nous emportant dans la fuite. Bref, on a la peur au ventre, dit-on aussi, soulignant ainsi, par sa présence au centre même de notre corps, sa toute-puissance sur nous. Beaucoup de choses, d'événements sont susceptibles de l'éveiller. Du quand dira-t-on à la peur du gendarme, en passant par la peur de la violence, de la souffrance, la peur de manquer, la peur de la punition, et bien sûr, la peur de la mort, plan ultime de nos peurs, souvent présente derrière les autres. Ainsi, dans la peur, c'est l'avenir lui-même qui est redouté, qui s'annonce comme redoutable. C'est l'imminence de la catastrophe, et non la catastrophe qui s'est produite, que nous craignons. Ce vécu de la peur est le plus souvent rupture. Il vient quand le mal surgit sur le fond de la tranquillité de nos existences. La sécurité est alors rompue. Sécurité du quotidien, qui nous paraît aller de soi, dont nous n'avons pas conscience justement parce qu'elle est la normalité. S'il devait y avoir une fonction positive de la peur, ce serait peut-être justement de nous apprendre à apprécier la normalité, apprécier sa tranquillité. Connaître la peur, la grande peur, c'est voir la paix du monde quotidien vaciller, emporter, c'est vivre intérieurement ce basculement. De tout ceci, il ressort donc que la peur est une souffrance. Dès lors, la question qui se pose à nous est la suivante. Faut-il voir en la peur un mal dont il faudrait pouvoir se débarrasser définitivement? La sécurité qu'elle brise ou qu'elle rend impossible est-elle un état idéal dont il ne faudrait jamais sortir? Le sage est-il alors celui qui ne connaît jamais la peur? Et finalement, n'est-ce pas la peur elle-même qui est à redouter? Bref, faut-il avoir peur de la peur? En effet, la première approche de la peur, l'approche la plus commune, c'est-à-dire la nôtre finalement, c'est une approche critique. Pour elle, pour nous donc, la peur est un mal, non seulement en raison de la souffrance qu'elle nous fait subir, mais également en raison de sa capacité à déclencher d'autres maux, comme la servilité, la violence, la lâcheté. Le courage serait ainsi le propre de ceux qui n'ont pas peur. L'homme vertueux étant sans peur et sans reproche. On remarquera d'ailleurs que les parents sont enclins à vouloir préserver leurs enfants. En tant que protecteurs, ils veulent pour eux un maximum de sécurité, jusqu'à vouloir les préserver de tout ce qui pourrait leur faire peur. Et si nous avions les moyens de leur offrir cette protection maximale, protection physique et psychologique, ne serions-nous pas tentés d'y recourir ? Eh bien, c'est exactement le sujet de l'épisode Archange de la série Black Mirror, où une mère aimante s'inquiète pour sa fille, qu'elle élève seule, et elle décide, cette mère donc, de tester le programme Archange. Ce programme consiste à implanter une puce électronique dans le corps de l'enfant, permettant ainsi aux parents de contrôler sur une tablette son état de sécurité jusqu'à voir ce que cet enfant voit. Écoutons cet extrait décrivant le programme.
Alors, passons à la mise en route. Je vais tout vous expliquer.
Merci.
Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ceci est votre console parentale. Je vais la jumeler avec l'implant de Sarah. Parfait, c'est prêt. Alors ça, c'est l'endroit où se trouve Sarah, juste à côté de nous, bien sûr.
C'est dingue.
Si jamais elle disparaissait, il vous suffirait simplement de taper ici, d'entrer votre copine, et les forces de l'ordre seraient automatiquement averties.
Ah, d'accord.
Voici ses constantes. Excellent rythme cardiaque. Oh, je vois qu'elle est légèrement carencée en fer. Elle mange bien.
Elle est vraiment difficile. Elle déteste les légumes, donc...
Vous devriez réfléchir aux compléments alimentaires.
D'accord.
Ensuite, tapez sur cette icône juste là... pour accéder à son flux optique.
On voit ce qu'elle est en train de voir?
Tout à fait.
Wow. C'est génial.
Maman, ça fait rire.
Et on peut aussi appliquer le contrôle parental.
Le contrôle?
On limite le contact. Si jamais elle assiste à un événement qui génère un stress et donc une augmentation de son taux de cortisol, l'implant va estomper ce qui l'aura déclenché. Je vous montre.
Inutile de vous dire que la mère va utiliser ce programme, flouter les moindres sujets de peur pour sa fille, pour le bien de celle-ci, pense-t-elle. Nous en reparlerons. En tout cas, ce refus de la peur, cette approche critique, est également partagée par certains philosophes qui voient en elle ce qui nous asservit et nous condamne au malheur. Traiter de la peur dans ces philosophies, ce n'est donc pas traiter un sujet parmi d'autres, c'est définir la sagesse elle-même. Le sage est alors celui qui ne craint plus, qui vit dans l'absence de troubles, dans un état de sérénité. Je pense ici au stoïcisme et à l'épicurisme, ces philosophies qui sont art de vivre, de mener une vie bonne et qui nous enseignent donc à ne plus vivre dans la crainte, dans les craintes multiples qui entravent notre accès au bonheur. Parlons pour commencer du stoïcisme, qui vise, lui, à nous libérer de toutes nos craintes. Crainte du jugement des autres, du mépris, de la pauvreté, de la mort de l'autre, de sa propre mort. Eh bien, en réalité, nous dit le stoïcisme, ce ne sont pas ces choses elles-mêmes qui sont redoutables, mais c'est notre jugement sur ces choses qui les rend terribles. Nous lisons dans les entretiens. Ce ne sont pas la mort ni la peur qui sont à craindre, mais le fait de craindre la peur ou la mort. Fin de citation. Pour le stoïcien, s'il y a une peur légitime, c'est celle de la peur elle-même. Épictète opère ainsi un déplacement de l'objet de la peur en passant au plan de l'intériorité où tout se joue en réalité. Ce n'est pas la chose extérieure ou l'événement qui est en cause, mais notre représentation de cette chose. C'est donc sur le plan de nos représentations et jugements qu'il faut travailler. Un plan qui est totalement en notre pouvoir, selon les stoïciens, à la différence de ce qui nous est extérieur et qui, selon l'expression d'Épictète, ne dépend pas de nous. Comme par exemple le fait d'être en vie, d'être en bonne santé, d'être riche, d'être puissant. Mais si dans la peur, nous nous faisons dépendre de ce qui nous est extérieur, de façon plus globale, toutes nos passions sont asservissantes, parce qu'elles s'accompagnent aussi de peur. Car tout attachement, comme dit si bien le mot lui-même, à un bien extérieur, s'accompagne nécessairement de la peur de perdre ce à quoi nous sommes justement attachés. Le désir de toujours conserver ses biens, et donc avec lui la peur de les perdre, est ce qui nous expose à la souffrance et au malheur. Le désir et la crainte sont toujours liés l'un à l'autre. Nous le verrons encore tout à l'heure. Ainsi, quand donc nous sommes malheureux, contraints par le sort, c'est en réalité nous-mêmes qui nous rendons malheureux, qui nous asservissons à ce qui nous arrive par nos représentations fausses. Écoutons le manuel d'Épictète. Je cite. « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ainsi, la mort n'est rien de redoutable, puisque même à Socrate, elle n'a point paru telle. Mais le jugement que nous portons sur la mort en la déclarant redoutable, c'est là ce qui est redoutable. Lorsque donc nous sommes traversés, troublés, chagrinés, ne nous en prenons jamais à un autre, mais à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos jugements propres. Accuser les autres de ces malheurs est le fait d'un ignorant. S'en prendre à soi-même, est d'un homme qui commence à s'instruire. N'en accuser ni un autre, ni soi-même, est d'un homme parfaitement instruit. Fin de citation. Mais alors, comment travailler sur nos représentations? Comment les modifier? En réalité, la sagesse réclame une seule chose, et pas des moindres, acquiescer à l'ordre du monde. En fait, il n'y a de mal que pour celui qui ignore que la Providence a disposé toute chose, que pour celui qui s'attache aux détails et ne le rapporte pas au tout conduit par les dieux. Épictète peut donc dire, je le cite encore, « Ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Fin de citation. Le sage stoïcien atteint ainsi une paix intérieure caractérisée par son ataraxie, c'est-à-dire son absence de troubles, quelles que soient les situations, les épreuves qu'il rencontre. L'idéal stoïcien de victoire sur la peur, sur toute peur, se confirme dans l'impassibilité du sage. Confronté à la torture, à la mort, il demeure maître de lui. Et d'ailleurs, on peut se demander si l'on peut être sage stoïcien sans avoir à le prouver, c'est-à-dire justement sans être éprouvé. Que le langage courant puisse assimiler stoïque à courageux n'est vraiment pas un hasard. Le sage est donc celui qui s'est ménagé, grâce à son bon jugement, à son acceptation du monde, une sécurité intérieure totale. Il est à l'abri, il y est même définitivement, comme l'écrit Marc Aurèle dans ses Pensées, je le cite. « C'est une acropole que l'intelligence libre de passion. L'homme n'a pas de plus forte position où se retirer pour être désormais imprenable. » L'homme n'a pas de plus forte position où se retirer pour être désormais imprenable. Comment mieux définir la sécurité qu'en ces termes? Passons maintenant à l'épicurisme. Il fait lui aussi de la peur l'ennemi à combattre pour accéder à la sagesse. Il pointe surtout deux peurs, celle de la mort et celle des dieux dans la superstition. Nous nous bornerons ici à évoquer la description de l'état de sagesse et non pas la façon de l'atteindre, description de cet état par Lucrèce, disciple d'Épicure. Le début du livre 2 de la Nature des choses compare deux états de bien-être et de sécurité pour montrer que l'état le plus heureux est celui des sages. Il est doux, quand la vaste mer est soulevée par les vents, d'assister du rivage à la détresse d'autrui. Non qu'on trouve si grand plaisir à regarder souffrir, mais on se plaît à voir quels maux vous épargnent. Il est doux aussi d'assister aux grandes luttes de la guerre, de suivre les batailles rangées dans les plaines, sans prendre sa part du danger. Mais la plus grande douceur est d'occuper les hauts lieux fortifiés par la pensée des sages. Ces régions sereines d'où s'aperçoit au loin le reste des hommes, qui errent ça et là en cherchant au hasard le chemin de la vie, qui luttent de génie ou se disputent la gloire de la naissance, qui s'épuisent en efforts de jour et de nuit pour s'élever au fait des richesses ou s'emparer du pouvoir. Fin de citation. La plus grande douceur, c'est celle que connaît le sage. Rien ne le trouble, rien ne l'inquiète, son corps et son esprit sont exempts de douleur. Jean-Louis Chrétien commente cet extrait et écrit « La vraie sécurité, le lieu où l'on n'a plus peur, est la sagesse. Mais la sagesse n'est vraiment sagesse et reconnaissable pour telle qu'à être parfaite sécurité. » Fin de citation. Lucrèce parlait en effet des hauts lieux fortifiés, comme Marc Aurèle, plus haut, parlait lui de positions imprenables. Mais arrêtons-nous un peu sur la question de la superstition, car son enjeu par rapport à la peur est double, religieux et politique. Religieux, car la superstition se définit comme une relation de désir et de crainte à la divinité, redoutée par l'imagination de sa toute-puissance. C'est dans l'exacte mesure où le superstitieux craint la colère de Dieu qu'il désire l'amadouer, obtenir ses faveurs, obtenir sa préférence. Enjeu politique également, car la superstition peut être instrumentalisée pour faire obéir les hommes au pouvoir en place. Comment en effet obtenir une soumission totale, si ce n'est en promettant l'enfer en cas de désobéissance ? C'est cette articulation du politico-religieux que dénonce cet autre auteur, Spinoza, dans son traité théologico-politique, et très exactement dans sa préface. La préface décrit d'abord la superstition, en analyse le fondement. Spinoza peut ainsi dire « La cause d'où naît la superstition qui la conserve et l'alimente est donc la crainte ». Fin de citation. Le rapport à la politique s'établit justement à partir de cette crainte que les rois utilisent, selon Spinoza, pour mieux tenir les hommes en respect. Il dit, je le cite, « Le grand secret du régime monarchique et son intérêt majeur est de tromper les hommes et de colorer du nom de religion la crainte qui doit les maîtriser afin qu'ils combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut et croient, non pas honteux, mais honorables au plus haut point de répandre leur sang et leur vie pour satisfaire la vanité d'un seul homme. » Fin de citation. Ce que Spinoza veut nous dire ici, c'est que les rois peuvent mener les hommes à la guerre, à la mort, en leur faisant croire que c'est Dieu lui-même qui le veut. Combattre pour le roi revient donc à combattre pour leur salut, à échapper à l'enfer qui leur pend au bout du nez s'ils n'obéissent pas. Spinoza connaissait bien sûr la fameuse épître de Paul aux Romains, dans laquelle il est dit, je cite, « Que toute personne soit soumise aux pouvoirs établis, car il n'est de pouvoir que de Dieu, et ceux qui existent sont institués par Dieu. Ainsi, celui qui s'oppose au pouvoir résiste à l'ordre voulu par Dieu, et ceux qui résistent s'attireront sa condamnation. » Les magistrats, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. » Fin de citation. Il est donc intéressant de noter que la puissance de ce régime monarchique, selon Spinoza, puissance qu'il dénonce, tient à une divinisation des rois et réciproquement au fait d'imaginer Dieu comme un monarque. Car Dieu n'est redoutable que dans la mesure où on se le représente, où on se l'imagine comme un roi omnipotent, vengeur et attendant du coup notre soumission servile. Spinoza, on le voit, combat lui aussi la peur qui nous asservit doublement sur les deux plans religieux et politiques. C'est donc la raison qui, selon lui, doit guider les hommes et non la peur qui se nourrit de l'imagination, la peur qui est décidément bien mauvaise conseillère, qui est source de tant de maux pour le genre humain. En conclusion de cette première partie, la sagesse nous paraît d'abord voir dans la peur son ennemi même. Et s'il devait rester une seule bonne peur, une peur salutaire, ce serait donc la peur de la peur. Si je résume brièvement, la peur nous est apparue comme un mal, voire comme le mal à combattre pour l'opinion commune d'abord, mais aussi pour bien des philosophes comme nous l'avons exposé. Alors nous allons aujourd'hui repartir de cette opinion commune, celle pour laquelle la peur est un mal, car elle est ce qui fait le lâche, le héros, tel le chevalier Bayard comme nous l'avons appris à l'école, serait donc sans peur et sans reproche. Mais demandons-nous quand même, que serait un homme courageux qui n'a peur de rien ? Comment peut-il être dit courageux s'il ne redoute rien, si ce à quoi il s'expose ne lui réclame aucun effort, aucune force d'âme ? Eh bien, il me semble que nous avons, chez Platon, une réponse à ce problème. Tout d'abord, pour commencer, une première citation extraite du dialogue consacré au courage, le Laques nous met sur la voie. Je cite Platon. « Je ne donne pas le nom de courageux, ni à ces bêtes brutes, ni à aucun être à qui l'absence de raison permet de n'avoir pas peur de ce qui est à craindre. » Je reprends la fin de la phrase. ni à aucun être à qui l'absence de raison permet de n'avoir pas peur de ce qui est à craindre. Autrement dit, le courageux n'est pas celui qui ne craint rien. Autrement dit, le courage n'est pas absence de peur. Par là, il se distingue de la folie téméraire de ceux qui courent inconsciemment au-devant du danger. Et nous allons voir que c'est la nature même de sa peur qui distingue l'homme courageux du lâche. Ainsi, dans la République de Platon, le courage est défini comme une sorte de discernement, un discernement sur les choses à craindre et celles qui ne le sont pas. Autrement dit, pour Platon, le courageux sait ce qui fait vraiment peur. Il l'éprouve au plus profond de lui, à la différence du lâche qui, lui, a peur de ce dont il ne faut pas avoir peur. Ce savoir, ce discernement, n'est pas le préalable au courage, mais c'est le courage lui-même qui implique d'avoir peur, mais peur de ce qui est vraiment redoutable, à savoir l'injustice, le seul véritable déshonneur. L'homme courageux est donc celui qui ne craint ni la souffrance ni la mort dans l'exacte mesure où il sait au plus profond de lui que rien n'est plus à craindre que d'être injuste, que de manquer à son devoir. Son savoir n'est autre que sa peur d'être indigne. La peur est donc, aussi paradoxale que cela puisse paraître, au cœur même du courage, puisqu'elle est ce qui anime le courageux. Mais voilà, cette peur n'est pas celle que nous croyons, c'est celle de l'indignité, de la faute morale qui atteint l'âme et non le corps. Et d'ailleurs, c'est bel et bien cette peur-là que Socrate dit éprouver lors de son procès, procès qui nous est restitué dans l'Apologie de Socrate, écrit par Platon. Alors même qu'il risque la mort, il n'utilise pas pour se défendre les moyens qui lui permettraient de rester en vie. Les beaux discours destinés à persuader, les gémissements, les lamentations, la reconnaissance de ses torts, la promesse de ne pas recommencer. Ah non, tous ces moyens pour rester en vie, il ne veut pas en payer le prix, l'indignité. Il sait bien que sa défense est contre-productive, qu'elle ne va pas le sauver, bien au contraire. Alors écoutons dans cet extrait Socrate s'expliquer sur ce qui est vraiment à craindre et sur la raison pour laquelle il n'a donc pas utilisé tous ses moyens indignes, selon lui, pour se maintenir en vie. « Non, je n'ai pas cru tout à l'heure devoir rien faire qui soit indigne d'un homme libre pour échapper au danger. » Et je ne me repens pas non plus à cette heure de m'être défendu comme je l'ai fait. Je l'affirme. Je préfère mourir après une telle défense que de vivre à pareil prix. Car, pas plus au tribunal qu'à la guerre, personne, qu'il s'agisse de moi ou d'un autre, ne doit chercher par tous les moyens à se soustraire à la mort. Souvent, au combat, il est évident, en effet, que l'on échapperait à la mort en jetant ses armes et en demandant grâce à ceux qui vous poursuivent. Dans chaque situation périlleuse, il y a bien des moyens d'échapper à la mort si l'on ose faire et dire n'importe quoi. Mais attention, citoyens, il est moins difficile d'échapper à la mort qu'à la méchanceté. La méchanceté, en effet, court plus vite que la mort. La méchanceté court plus vite que la mort. Si Socrate compare le fait d'échapper à la mort à celui d'échapper à la méchanceté, c'est parce que ces deux choses sont redoutables. Mais la seconde, la méchanceté, pire encore. La méchanceté devient comme un agresseur devant lequel il faut fuir. Un agresseur qui court plus vite. Faisons maintenant un saut dans le temps et dans la littérature. Un personnage de fiction me paraît incarner ce même rapport à la peur que Socrate. Angelo, le hussard du roman de Giono, Le hussard sur le toit. Je voudrais évoquer ce roman que j'ai découvert récemment et que j'ai énormément apprécié, car il met en scène des hommes confrontés aux ravages du choléra qui a réellement sévi en Haute-Provence en 1838. des hommes confrontés aux ravages du choléra et donc confrontés à la peur, à la plus grande des peurs, à la peur de mourir. Alors rappelons qu'Angelo côtoie la mort et avec une bravoure, voire parfois même une témérité qui ne se dément pas tout au long du roman. Il rencontre un jeune médecin, remarquable, héroïque, sacrificiel, qui meurt d'avoir trop soigné. Il rencontre aussi des hommes que la peur rend fous et meurtriers, des complotistes. Oui, les complotistes de l'époque, qui, ayant besoin de coupables dans la catastrophe, prennent Angelo pour un empoisonneur de fontaine, soi-disant mandaté par le gouvernement, pour répandre la maladie et la mort par l'eau des fontaines. Angelo leur échappe et se réfugie sur les toits. Mais surtout, il rencontre Pauline de Théus, qu'il protège et ramène à son mari. Pauline, qui n'a pas eu peur de lui, le soir où il s'est introduit chez elle par le toit. Et alors qu'ils font route ensemble, en évitant les lieux ravagés par le choléra, ils ont cet échange au sujet d'un homme qu'ils viennent de quitter et qui, comme eux, fuyait les lieux infestés. Un échange où la peur, vous allez le voir, paraît tour à tour saine et honteuse. Lisons ensemble ce texte. « Avez-vous remarqué, dit la jeune femme, que l'homme qui vient de nous quitter ne s'est jamais approché de nous pendant la marche que nous avons faite avec lui, mais qu'il s'est soigneusement tenu sur le bas-côté de la route ? J'ai trouvé cette façon de faire fort naturelle, dit Angelo. Actuellement, il est préférable de se tenir loin les uns des autres. Je crains la mort qui est dans la veste du passant que je rencontre, et il craint la mort qui est dans la mienne. S'il avait été trop familier avec nous, j'aurais fait mes réflexions à haute voix et il serait retourné à sa place. » Voilà 6 jours cependant que nous sommes ensemble, vous et moi, dit la jeune femme. Je ne vous ai jamais vu de répugnance à vous approcher de moi, et je dors dans votre manteau. C'est naturel, qu'y a-t-il à craindre? La mort qui peut être dans mes jupes comme dans la veste du passant? Angelo ne répondit pas. Elle demanda s'il dormait. Oui, dit-il, je m'endormais. Paisiblement, à côté de moi? Bien sûr. Sans craindre la mort que je pourrais vous donner aussi bien que n'importe qui? Non, pas aussi bien. Je m'excuse, ajouta-t-il. Je viens de vous répondre en dormant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que nous sommes des compagnons et que nous n'avons rien à craindre l'un de l'autre, puisqu'au contraire, nous nous protégeons. Nous faisons route ensemble. Nous nous efforçons de ne pas attraper la maladie. Mais si vous l'attrapiez, croyez-vous que je foutrais le camp? Magnifique passage où la question finale « Mais si vous l'attrapiez, croyez-vous que je foutrais le camp ?» cette question rhétorique témoigne bien de la noblesse d'âme de notre hussard, prêt à mourir s'il le faut pour protéger, voire sauver Pauline, ce qu'il fera d'ailleurs par la suite et bien sûr en s'exposant totalement. Pour Angelo, rien ne serait pire et son monologue intérieur qui traverse le roman l'atteste. Oui, rien ne serait pire pour lui que de mal se conduire, de manquer de noblesse morale. Le roman décrit donc toutes les façons de se rapporter à la peur, et à la peur la plus terrible, celle de la mort. Il nous montre aussi combien l'insécurité révèle les hommes, révèle qui ils sont, les confronte finalement à eux-mêmes. Si rien n'est moins souhaitable qu'une épidémie comme le choléra, qu'une guerre, il n'empêche que l'on ne saurait vouloir ôter aux hommes toute épreuve, toute situation d'insécurité. Cela serait leur ôter leur condition même de vulnérabilité et de liberté, pour ne pas dire leur condition d'homme. C'est pourquoi nous devons veiller à ne pas laisser l'obsession de la sécurité envahir nos vies. Obsession qui tend à se manifester derrière les plaintes, les accusations même que nous exprimons, quand la réalité n'est pas confortable, quand elle n'est pas conforme à nos désirs. Comme si tout malheur pouvait être évité, et comme s'il devait l'être. Comme si nous pouvions et devions tout contrôler, tout maîtriser. C'est pourquoi il nous faut également, aussi difficile que cela soit, accepter que nos enfants puissent eux aussi connaître la peur, la souffrance. Vivre dans une protection totale, où l'on n'aurait plus rien à craindre, plus rien à surmonter, où notre bonheur serait continu, sans aspérité aucune, serait-il encore vivre? La bienveillance sécuritaire n'est-elle pas finalement elle-même redoutable ? Alors, à ce sujet, pour terminer, je voudrais revenir à cet épisode de la série dystopique Black Mirror, dont nous avons passé un extrait, rappelez-vous. Il racontait cet extrait comment une mère, par souci de sécurité pour sa fille, souscrit à un programme permettant de la surveiller sans cesse et de la préserver de toute peur. Eh bien, l'histoire se termine mal.
C'était l'intermède philosophique, une chronique présentée par Camille Escamilla.